Bonjour, vous écoutez Les Amis d'Orwell, l'émission de Souris, vous êtes filmé. Tom Jo, tu viens de Lille, tu participes à l'équipe de rédaction d'un journal d'enquête sur Lille qui s'appelle La Brique, et tu as récemment publié un ouvrage qui s'appelle L'Enfer Vert, et qui aborde la question des transformations, des aménagements à Lille au cours des 30-40 dernières années. Et parallèlement à ça aussi, l'évolution du mouvement écologiste lillois, et ça une forme de reconversion en écolo-technocrate. Alors, est-ce que, déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment est venu le projet de faire ce livre ?
Ce livre, c'est une enquête vraiment journalistique. Qui se part de sources ouvertes, de délibérations de la mairie, de coupures de presse, etc. Qui se voulait un petit essai concis et appropriable par tout le monde, pour mettre à la vue de tous ce qui est en train de se passer. Là, c'est un peu l'idée, c'est que ce soit vraiment une sorte d'outil pour que les gens s'en emparent et puissent pourquoi pas réagir face au renouvellement urbain, quoi. Et donc concrètement, ce bouquin part de la mise en place par l'île Métropole d'une carte de transport RFID qui serait utilisée dans tous les transports de la communauté urbaine de l'île, métro, tramway, bus, vélo libre-service, voire taxi, etc. Qui serait aussi utilisée, cette même carte, par les voyageurs des TER, des trains express régionaux, des autres opérateurs, des autres bus de la région. Et à terme, cette carte devrait devenir une carte de vie quotidienne qui servirait également, en plus des transports, à emprunter des bouquins à la bibliothèque, rentrer dans les cinémas, les crèches, payer la cantine pour les enfants, etc. Donc c'est vraiment une carte multiservice sur laquelle il y aurait absolument toutes nos informations qui pourraient être répertoriées dans un fichier, à savoir nos déplacements, notre consommation de loisirs, etc., nos lectures et tout, voilà.
Ah, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que les RFID ?
Ouais, alors la RFID, c'est donc des puces émettrices et réceptrices d'informations à distance. On appelle ça aussi des puces sans contact. Donc c'est des petites puces qui... Enfin, l'origine est militaire, ça existe depuis je sais pas, les années 40-50. Ça permettait aux avions de s'identifier pendant la guerre, donc d'identifier les amis et les ennemis pour pas se gourer. Et donc avec la miniaturisation de l'informatique et les progrès des nanotechnologies, aujourd'hui ces puces peuvent être de la taille d'un grain de riz, quoi, voire même plus petites. Et voilà, donc c'est une petite puce informatique dotée d'une antenne pour communiquer par radiofréquence avec des bornes. Et donc cette puce contient des informations et donc on peut enregistrer et inscrire des informations dessus et en envoyer aux bornes qui ensuite les collectent et les renvoient à un ordinateur central, un fichier central.
Ouais, c'est une diffusion qui a une origine logistique. Il s'agissait au départ après son utilisation militaire, de sa diffusion était basée sur le comptage des marchandises, parce que il y a différents types de puces. Certaines sont elles sont sans contact mais avec des distances plus ou moins différentes suivant les modèles. Et donc bon, à Paris on connaît le cas de la carte Navigo. Mais d'autres modèles, il n'y a pas la nécessité de plaquer une carte contre un récepteur. Il suffit de passer dans le champ de captation de la puce pour faire que des informations soient transmises entre un émetteur et un récepteur. Et donc là, à Lille, donc cette carte de vie quotidienne, ça va beaucoup plus loin que la carte Navigo à Paris.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vraiment... C'est un projet, je sais pas, c'est peut-être unique au monde, je sais pas. Enfin, je pense peut-être au Japon, il doit y avoir des expériences comme ça, des expérimentations un peu dingues. Il y a un quartier dont je parle un peu dans le livre, qui est le quartier Ginza à Tokyo, qui se veut un peu la référence des divers technocrates lillois, de la recherche et développement, des techniciens de la métropole, etc. C'est un quartier dans lequel tout le mobilier urbain est balisé de bornes RFID, quoi. Les métros, enfin, c'est une sorte de quartier complètement ubiquitaire, c'est ça qu'ils appellent, qui permet de géolocaliser en permanence les passants et eux-mêmes peuvent se retrouver dans la ville avec leur téléphone portable par exemple et je sais pas, accéder à un tas d'informations et savoir exactement où se trouvent les marchandises qu'ils recherchent. Ils peuvent recevoir des publicités sur leur téléphone, commander directement quand ils passent devant la publicité la marchandise, etc. C'est un peu le modèle, c'est un des modèles mondiaux. Voilà.
D'accord. On va revenir à Lille et aussi parce que là on a parlé de cette carte de vie quotidienne avec puce RFID intégrée. Et quel est le rapport avec les écolos lillois, avec notamment les Verts, les élus Verts?
Alors il s'avère que cette carte de transport, d'abord, dans un premier temps, elle est mise en place par l'élu au transport, qui est un vert, quoi, un écologiste, qui s'appelle Éric Tiquet, pour ce qui est de l'île métropole. Et pour ce qui est de la région, c'est-à-dire donc qui a la compétence des TER, c'est un autre élu vert qui est en charge de ça, qui s'appelle Dominique Planck. Et en l'occurrence, c'est donc deux écologistes. Ce qui peut paraître surprenant quand les Verts ont des discours qui est censé être critique aux technologies, en tout cas un peu aux OGM, au nucléaire. Et surtout quand ils ont un discours qui est censé être critique des diverses dérives sécuritaires, entre guillemets, tels que les fichiers Edvige, les fichiers bas élèves, enfin on entend souvent des Verts un peu monter au créneau là-dessus. Et là en l'occurrence, ils se trouvent être à l'avant-garde du fichage général, du fichage généralisé et total quoi, des métropolitains du Nord. Quoi.
Alors comment ça s'est passé cette évolution? Parce que dans la première partie de ton livre, tu décris un petit peu la transformation urbaine au cours des années 70, 80, 90 à Lille. Et au début, le mouvement écologiste à Lille, c'est les Amis de la Terre. Donc ça fait penser un peu à les années 70, des écolos babacool à cheveux longs. Comment on en est venu à des écolos technocrates progressivement?
Donc c'est vrai du coup je fais un petit historique des écologistes et leurs discours à chaque élection municipale. Et c'est vrai qu'on part dans les années 70 d'une liste écologiste qui s'appelle Autogestion et écologie, qui est menée par Pierre Radane, qui est bien connu puisqu'il a présidé l'ADEME ensuite.
Donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Voilà, qui est vraiment le bras armé de l'État sur les questions d'écologie et d'énergie. Quoi. Et avec un discours un peu gauchiste, un peu libertaire, écologiste. Et voilà, voilà. Et à l'époque, on est dans une ville, la ville de Lille, qui est un peu frappée par la désindustrialisation. Quoi.
Là, c'est la fin des années 70.
Là, on est en 1977, ouais. Avec des premières grosses opérations immobilières dans le quartier du Vieux-Lille, qui est encore un quartier prolétaire, un quartier avec des immigrés, des travailleurs immigrés, des squatteurs, etc. Et voilà, donc les écologistes, en gros dans le Nord, ils naissent un peu dans ce quartier-là, quoi, aux côtés des squatteurs, etc., qui sont eux-mêmes sûrement des squatteurs aussi. Voilà, l'écologie, elle naît un peu dans ce quartier, quoi. Et donc au fur et à mesure, donc ils vont se représenter à chaque élection. En 1983, on a aussi une liste qui est encore plus dure politiquement que celle d'avant. Mais on dirait que c'est un peu une parenthèse, cette liste-là. Et au fur et à mesure, à partir du moment où les Verts se structurent en parti, donc on est en 1984, là on a vraiment le virage gestionnaire et vraiment électoraliste, même s'il l'était déjà avant, de l'écologie. Quoi. Ils le disent clairement, en 1984, je prends un article tiré de leur revue nationale, un article qui s'appelle « Je dis oui », et qui dit qu'il faut arrêter d'avoir peur des sphères, je sais plus comment ils disent ça, politico-institutionnelles, et qu'il faut rentrer dans les exécutifs. Et donc, à partir de ce moment-là, on commence à avoir des discours d'efficacité, un discours de compétence, un discours de bonne gestion, pragmatique, etc. Et donc, voilà, le mouvement un peu fleuri des années 70, post-68, utopique, etc., au fur et à mesure, se fait happer par l'institution, où c'est même eux qui réclament à être dans l'institution. Et donc on en a fini de l'utopie 68 armes, post-68 armes. Quoi.
Денежки деньжата, как вас так копить? Падает зарплата, надо меньше пить. Эх, стакан граненый, и водочка слеза. Пьяный, как влюбленный, и влажные глаза. Money,
ik heb geen poen,
keer carmani,
niks te doen,
ukradi,
ik ga niet stelen,
zarabota,
niet te spelen,
money,
ik heb geen poen,
keer carmani,
niks te doen,
ukradi,
ik ga niet stelen,
zarabota,
niet te spelen.
Если нету денег, это не беда. Привяжите веник, попью навсегда. Где моя Одесса, где мой отчий дом? Даже день вчерашний помнится с трудом.
О, honderd dagen lappen, ik kan niet op de pof. Shoppen bij de zeeman, het is een grote sof. Werken voor een prikkie, of in de WW. Elke avond hangen, ik zit voor de tv.
Нам скоп песочки, солнце и весна. Распустились почки, и печи нет уста. У меня, конечно, есть один ответ. Больше петь не буду, меньше тоже нет.
Niks te doen.
Укради.
Ik ga niet stelen.
Заработай.
Valt niet te spelen.
Money, money.
Ik heb geen poen.
Jerker, man.
Niks te doen.
Укради.
Ik ga niet stelen.
Заработай.
Valt niet te spelen.
Конечно, есть один ответ. Больше петь не буду, меньше тоже нет. У меня, конечно, есть один ответ. Больше петь не буду, меньше тоже нет. У меня, конечно, есть один ответ. Больше пить не буду, меньше тоже нет. У меня, конечно, есть один ответ. Больше петь не буду, меньше тоже нет.
À cette époque-là, donc dans les années 80, c'est Pierre Mauroy qui est à la tête de la mairie de Lille. Et quelle est la relation des Verts avec cet exécutif, et notamment son appréciation des différents projets que tu cites à cette époque-là. C'est dans les années 80, c'est la naissance du TGV notamment. C'est aussi donc l'aménagement du quartier du Vieux-Lille. Quelle est leur position à cette époque-là vis-à-vis de ces projets? C'est déjà un accord à l'exécutif socialiste?
Au tout début, non. À la fin des années 60... Si, en fait, si... En 77, les écologistes négocient. Ils font un score qui est, je sais plus, vers les 6-7%, qui est pas trop mal. Et donc, entre les deux tours, ils négocient la maison de la nature et de l'environnement. Bon, c'est un truc qu'on retrouve un peu dans toutes les villes, une sorte de grosse maison associative, etc., spécialisée dans l'environnement. Et donc, ils reportent leur voix sur Pierre Mauroy, deuxième tour. En 1983, la liste, elle est beaucoup plus dure, et ils refusent toute discussion, et ils refusent leur mot, c'est ils refusent le marchandage et des strapontins verts. Voilà. En 1989, c'est fini. On entre pleinement dans une coopération avec les socialistes à l'époque. Et donc, toutes les critiques qu'ils auraient pu faire dans les années 70 du métro, par exemple, qu'ils considéraient comme une opération de prestige, toutes ces critiques des grosses infrastructures, et notamment toute la critique du renouvellement urbain du Vieux-Lille, elle disparaît, quoi. En 89, on a encore un peu des propos un peu durs, du genre lutte contre les promoteurs agressifs du Vieux-Lille, parce qu'à l'époque, c'est vraiment dur. Hein, pour les locataires, c'est vraiment dur. On assiste à des scènes de promoteurs qui déboulonnent les escaliers intérieurs, qui foutent des rats dans les maisons, qui font des trous dans les toitures, etc. À cette époque-là, elle est vraiment c'est guerrier, quoi, de la part des promoteurs. Donc de toute façon, en face, ils peuvent qu'avoir un discours dur, quoi. Mais dès 89, donc ils décident de rentrer dans l'exécutif et donc de discuter avec Pierre Mauroy et de participer à la gestion de la ville. Et donc là, on commence à avoir un discours qui est de l'ordre de l'aménagement, quoi. C'est-à-dire que le TGV, Bon, globalement, les Verts sont plutôt pour le TGV. Ils sont contre l'avion, ils sont pour le TGV. Voilà, c'est un peu leur truc. Et donc, ils souhaitent que le TGV soit souterrain quand il arrive à Lille. Enfin, on est déjà dans un discours de mesure, quoi, de mesure et d'aménagement. Voilà, on ménage la chèvre et le chou. Voilà. Donc, c'est un peu le gros basculement. Il est là en 89, quoi, avec des gens qui rentrent du coup dans l'exécutif.
Ce que tu expliques, c'est qu'en fait ils opposent différentes techniques entre elles, mais sans qu'il y ait une réflexion globale sur les impacts que peuvent avoir les divers aménagements sur la transformation sociale de la ville.
Oui, donc les Verts sont les principaux défenseurs de, par exemple, ce qu'on appelle les transports doux, contrairement à la voiture individuelle qui est fortement émettrice de CO2. Et, contrairement, par exemple, aux années 70, où bon, ça ne les intéressait pas, aujourd'hui, ils le défendent. Quoi. Mais il n'y a pas vraiment de réflexion sur l'utilité sociale de ce transport. Par exemple, le truc le plus flagrant, c'est par exemple le métro qui a été construit entre Lille et Roubaix. Aujourd'hui, sert à acheminer je sais pas combien de centaines de milliers de travailleurs tous les matins, de salariés, qui partent de Lille et qui vont à Roubaix, alors que là, c'est la ville peut-être où il y a le plus de chômage en France, quoi. Donc concrètement, on est dans un besoin complètement artificiel, c'est-à-dire qu'on crée du travail sur le territoire de Roubaix, mais pas pour les Roubaisiens, pour les gens extérieurs, quoi. Et à la limite, c'est pareil avec le TGV, quoi. Ça sert à faire venir des cadres, etc., qui viennent travailler à Lille. Mais bon, on est dans des opérations qui sont un peu artificielles, quoi. Et ces besoins-là sont jamais remis en question, quoi. Quel emploi on défend, enfin, s'il faut défendre l'emploi, quels sont les besoins en travail des gens qui habitent là, quoi. On est passé d'un besoin de mobilité à un devoir de mobilité, quoi, un peu. Il y a tout un discours sur la mobilité, c'est bien, il faut de plus en plus de transport. Voilà, donc les Verts sont complètement là-dedans, avec d'un côté un discours critique de la voiture, et d'un autre côté, aucune remise en question du devoir de mobilité aujourd'hui des métropolitains. Quoi.
Mais ce discours sur la mobilité, ça va aussi accompagner un phénomène de métropolisation ou de technopolisation qui caractérise pas seulement Lille, mais pas mal de grosses agglomérations françaises et mondiales aujourd'hui. Comment ça s'est passé à Lille et qu'est-ce qui se construit, qu'est-ce qui s'est construit?
Donc, on pourrait dire que la métropolisation, c'est l'œuvre de Pierre Mauroy. C'est-à-dire que c'est lui qui a milité pour que on ait un TGV entre Paris et Lille, pour qu'on ait un TGV entre Lille et Bruxelles, entre Lille et Londres, avec un tunnel sous la Manche, qui est complètement fou. Enfin, quand j'y repense, faire un tunnel sous la flotte, ça me paraît complètement dingue, en fait. Et donc la métropolisation, c'est ça, le phénomène de métropolisation, c'est de... La métropole, c'est la ville-mère, donc c'est celle qui concentre les activités, quoi. Et donc pour ça, pour concentrer les activités, il faut des moyens de transport rapides, plus ou moins rapides, pour ensuite faire se déplacer les gens entre chaque concentration urbaine, chaque métropole, quoi. Donc ça, on pourrait dire que c'est l'œuvre de Pierre Mauroy, quoi.
Donc, et là, c'est le quartier Euralille qui se développe, c'est dans les années 90.
Voilà, c'est ça. Donc c'est à l'image de Lyon, c'est-à-dire qu'un jour, Pierre Mauroy est parti à Lyon, qui venait juste d'accueillir le TGV et leur nouvelle gare, le Lyon-Pardieu. Il est parti avec tout un arsenal de notables, de patrons, etc., regroupés dans un truc qui s'appelle l'Agence pour la promotion internationale de Lille Métropole. Et donc il a pu constater sur le terrain que Lyon était trop bien, quoi. Enfin, il savait attirer les capitaux, les investisseurs, grâce à cette gare TGV qui, tout autour d'elle, regroupe des bâtiments d'entreprise, enfin, des hôtels d'entreprise. Voilà. Donc il ne s'agissait pas seulement d'avoir une arrivée TGV, il fallait que tout autour se développe une grosse activité commerciale, donc avec des centres commerciaux, etc. Mais surtout des hôtels d'entreprise, mais aussi des hôtels de luxe, un casino. Aujourd'hui, on a, une espèce de développement d'activités supérieures et de commerce qui se sont développés tout autour de la gare. Et on retrouve ça à Lyon, par exemple, on retrouve ça dans toutes les villes maintenant de province, en tout cas. C'est un truc qu'on retrouve, quoi.
Et ce phénomène s'accompagne comme partout aussi d'une, ce qu'on appelle une gentrification ou un petit embourgeoisement de la ville, avec toujours plus d'évacuation des populations qui n'ont plus les moyens de vivre dans ces quartiers-là.
Ouais, c'est-à-dire qu'il s'agit d'accueillir ces nouvelles classes supérieures, ces classes créatrices, et donc il s'agit de bien les loger. En l'occurrence, le quartier du Vieux-Lille, c'est impeccable parce qu'il est juste à côté. Juste à côté de Rallye, juste à côté de la gare TGV, c'est un peu le quartier ancien, donc plutôt joli, etc., avec des vieilles maisons en briques qui n'ont pas été détruites. Donc c'était vraiment pour eux le quartier à gentrifier. Voilà. Donc il a fallu virer petit à petit les populations habitantes de l'époque. Pour les remplacer, faire monter les loyers, changer les commerces, mettre des commerces, des grandes chaînes, enfin après tout le phénomène de gentrification qui suit.
Et les élus verts ont accompagné ce mouvement?
Oui, on pourrait dire oui. Oui, c'est sûr. Ouais. Enfin, au début, ils étaient plutôt contre Euralille. Ils avaient plutôt un discours de défense des locataires quand même. À la fin des années 80, surtout qu'il y avait une grosse association dans le Vieux-Lille qui s'appelait l'Atelier Populaire d'Urbanisme, qui était une grosse association de défense des locataires. Il y a pas mal de verts à l'époque qui étaient dans cette association. Donc ils ont accompagné, je sais pas si... Bon, ça serait de mauvaise foi de dire qu'ils ont accompagné ça dans le Vieux-Lille quand même, je pense. Mais aujourd'hui, ça leur pose plus de problème, quoi. Par contre, aujourd'hui, c'est sûr, quoi. Aujourd'hui, il y a même le projet de recreuser le canal qui passait dans le Vieux-Lille pour y poser des navettes pour transporter les gens jusque en pôle de compétitivité, Eura Santé et Eura Technologie, quoi. Et enfin, aujourd'hui, clairement, avec leur demande de centre-ville piétonnier, etc., ils participent un peu à une sorte de Disneylandisation du Vieux-Lille et du centre-ville, quoi, de la Grand Place et tout. Aujourd'hui, par contre, ils en veulent, quoi, de ce centre-ville juste commerce, une sorte de centre commercial à ciel ouvert avec des activités type grande fête.
Oui, il y a aussi une participation des activités culturelles à cette mise en place. Il y avait, je crois, une époque, aussi une candidature de Lille aux Jeux Olympiques.
Ouais. Donc ça, c'était un des grands souhaits de Pierre Mauroy et surtout du patronat, d'avoir un grand événement de résonance européenne, voire internationale, pour que les gens dans le monde entier connaissent Lille, quoi. Donc ça a été... ils ont espéré avoir les Jeux Olympiques. Je sais plus en quelle année c'était, ça. Et donc ils l'ont pas eu. Et du coup, Lille a eu une sorte de lot de consolation qui était le statut de capitale européenne de la culture en 2004. Et ça, clairement, c'est vraiment très important à Lille, parce qu'il fallait vraiment changer l'image d'un Nord dévasté, avec des gens qui sont tous alcooliques, drogués, chômeurs, consanguins et tout ce qu'on veut comme fantasme, qui peuvent être aussi un peu vrais, parce que c'est clair qu'il y a aussi la misère, mais clairement il fallait pour pouvoir attirer les cadres, il fallait changer l'image et aussi leur donner un peu de culture, quoi, un peu de divertissement. C'est des gens qui consomment de la culture et ils ont besoin de décompresser le week-end ou le soir ou je sais pas quoi. Et donc ça participe de la gentrification de Lille, quoi, et du renouvellement urbain.
Alors tu cites des propos de Martine Aubry qui parle de la ville de Lille comme étant ou devant être attractive et rayonnante. C'est un slogan assez récent. Et le phénomène de transformation urbaine qui avait touché les quartiers anciens de Lille au cours des années 2000, ça va s'étendre. aux villes environnantes, parce que bon, il y a la ville de Lille, et à côté de ça, il y a aussi la communauté urbaine qui englobe d'autres villes mitoyennes.
Ouais. Bah, de toute façon, ils essayent, quoi. Il y a le quartier d'Oisem, qui est aussi un vieux quartier populaire, le quartier de Fives. Après, ça va quand même être dur, peut-être en 20 ans, 30 ans, mais c'est quand même une ville à Lille qui reste populaire encore en son centre, quoi. Enfin, mis à part le vieux Lille qui est complètement fini, quoi, qui est complètement bourgeoisé, ils essayent. Alors, s'ils peuvent pas, en tout cas, remplacer une population par une autre, qui est la définition de la gentrification, en tout cas, ils vont faire en sorte, par exemple à Oisem, de pacifier urbanistiquement le quartier, quoi. Avec des espèces de blocos urbains, avec des grilles partout, avec des digicodes, toute cette architecture sécuritaire. Donc, s'ils ne peuvent pas remplacer une population par une autre, en tout cas, ils pacifieront urbanistiquement ces quartiers-là, quoi. Et voilà, et c'est des phénomènes qu'on retrouve aussi à Roubaix, avec une place centrale, la place de la Liberté, qui s'appelle, qui est aujourd'hui complètement granitique. Il n'y a plus de bancs, c'est très bien éclairé le soir. Il y a même une rue qui est fermée la nuit, une rue avec tous les commerces qui est bouclée, quoi, qui est vraiment c'est censé être public, mais elle est bouclée la nuit. Voilà. Après, ils n'arriveront pas à faire de tous les Lillois, tous les Roubaisiens, des gens riches. À mon avis, ça va être dur, quoi. Mais en tout cas, ils arriveront à pacifier. En tout cas, ils essaieront.
Oui, je crois me souvenir que l'adjoint en charge de la sécurité de Roubaix est aussi un des membres du conseil d'administration du Forum européen de la sécurité urbaine. Et c'est il a développé un concept de non plus de vidéosurveillance, mais là d'hypervision. Enfin, j'avais lu ça.
Жизнь порою странна, как без акации весна. Вдруг пришла Сюзанна, и нет покоя мне ни сна. Я не возражаю, таких красавиц не сыскать. С грустью провожаю, не прекращая повторять. Капитан, полный ход, вторая молодость зовет. Эх, отечество, дым, я буду вечно молодым. Остался бешеный порыв. В мире непонятно гулял я, глазки призакрыв. Что это за штуки и сумасшедшие дела? Без предупреждения золотая рыбка приплыла. Капитан, полный ход, вторая молодость зовет. Отечество дым, я буду вечно молодым. We'll be right back. Как ужасно странно, как без акации весна. Вдруг пришла Сюзанна, и ни покоя мне ни сна. Я не возражаю, таких красавиц не сыскать. С грустью провожаю, не прекращая повторять. Капитан, полный ход, вторая молодость зовет. Эх, отечество, дым, я буду вечно молодым.
Mais en dehors des questions de logement, il y a aussi la spécialisation des activités du territoire. Donc c'est de créer des espèces de grands pôles d'attraction, bon, ce qui s'appelle cluster, pôle de compétitivité, pôle d'excellence, des choses comme ça, et qui font des liens entre la recherche, les financements publics et les industries locales. Donc tu cites plusieurs exemples de ces nouveaux quartiers, nouveaux pôles de compétitivité qui s'ouvrent, avec notamment les regroupements universitaires, la question du textile. Tu peux en dire quelques mots?
Donc c'est... Donc ces pôles de compétitivité, ces technopôles qui font passer de la métropole à la technopole, je ne sais pas trop, une ville dont les moteurs sont la recherche et le développement, en tout cas le développement de la ville tracté, on pourrait dire, par ces pôles de compétitivité. Ouais. Et donc j'en donne plusieurs. Il y en a un par exemple qui s'appelle Eura Technologie. Donc c'est au sein de Eura Technologie que se mettent en place les divers projets de ville ubiquitaire, par exemple. C'est ça qui m'a fait m'intéresser à ce pôle de compétitivité, dans lequel on retrouve la grande distribution, donc la famille Mullier, détentrice de Auchan, Decathlon, etc., qui sont les grands défenseurs de la RFID, forcément. Dans lequel on retrouve aussi l'Université Lille 1, et l'Université des sciences et technologies Lille 1, et tous ces centres de recherche, l'Institut d'électronique, microélectronique et nanotechnologie qui bosse sur la RFID, enfin tout ça. Donc il y a celui-là qui sera entouré de bâtiments à haute qualité environnementale, qui satisfont les verts, les écologistes. Il y a un autre pôle de compétitivité assez important qui s'appelle Eura Santé, qui regroupe notamment le pharmacien, le chimiste Bayer, dont je trace le portrait succinctement dans le bouquin et plus longuement dans la dernière brique, là, qui sont vraiment des marchands de mort, quoi. C'est eux qui ont inventé c'est le plus gros vendeur de pesticides au monde, c'est eux qui ont inventé le gaz sarin, le gaz tabac, c'est eux qui ont inventé le gaz moutarde. C'est eux qui ont fait des explosifs pendant la guerre, la Première Guerre mondiale, à partir des colorants qui étaient développés pour le textile, notamment dans le Nord. Enfin, voilà, et donc eux participent à un truc qui s'appelle Eura Santé, qui est financé notamment par les grandes familles agro-industrielles du Nord, les boulangeries Paul, par exemple, la famille Roquette, enfin voilà.
Il y a aussi un développement au niveau du textile, le textile du futur.
Ouais. Et ensuite, donc voilà, Roubaix, sur la zone de l'Union, où il y a historiquement Roubaix, Tourcoing, Waterloo, qui est mondialement connu, enfin qui était mondialement connu pour ses usines textiles. Donc il y a plus d'usines textiles depuis, je sais plus, la dernière, qui a dû fermer, ça devait être au début des années 2000, quoi. Et aujourd'hui, il y a une espèce de renouveau textile autour de ce qu'ils appellent un centre européen de textile innovant, et qui est basé sur les nanofibres, les microfibres, etc. C'est du textile technique pour l'aviation, pour la médecine, pour l'armée, les pompiers, etc. Voilà. Et donc tout autour de ça, de cette zone de l'Union, il va y avoir un grand écoquartier. Donc c'est le souhait des écologistes roubaisiens, des écologistes métropolitains, de la mairie, de la communauté urbaine qui les a entendus, et aussi de l'État. Donc le projet d'écoquartier de la zone de l'Union a reçu le tampon écoquartier du ministère de je sais pas quoi, de l'environnement. Donc tout autour de sur des nuisances séculaires, sur des nuisances industrielles, de rejets chimiques, etc. Autour des futures nuisances, des nanotechnologies, etc., on aura des jardins collectifs, on aura de l'apiculture urbaine, on aura des trames vertes, c'est-à-dire des espaces plus ou moins protégés, mis sous cloche. On aura des navettes fluviales, enfin, toutes ces saloperies qui nous font accepter, encore une fois, que c'est le patron industriel qui fait défait un territoire, qui expulse des gens, qui rase des maisons, ils ont rasé je sais pas combien de maisons, qui ont reconstruit derrière, mais avec des normes de haute qualité environnementale. Enfin.
Ce seront les chômeurs, les familles ouvrières de Roubaix qui iront vivre dans cet écoquartier ?
Non, je crois pas, non, parce que il y aura plus de prolétaires. En Roubaix, ils sont à Taïwan, ils sont en Inde. Ça va concentrer le gros des activités de recherche et développement, de conceptualisation, etc. Quoi. Ça sera vraiment c'est eux qui bénéficieront de ces logements à haute qualité environnementale. Mais non, les ouvriers sont en Asie. Quoi. Voilà.
Donc. En gros, conclusion de ton livre, c'est que le mouvement écologiste, en tout cas une partie du mouvement écologiste de Lille, en fait, se retrouve aujourd'hui à gérer toutes ces nuisances et ce que tu appelles aussi à s'occuper du moindre mal techno-industriel.
Ouais, voilà, c'est-à-dire que quand c'est pas eux directement qui renouvellent le discours ou les procédés industriels, par exemple autour des RFID, etc., qui souhaitent de toute leur force développer, ils sont là pour rendre acceptable inacceptable, quoi. C'est-à-dire pour accompagner, pour enrober de vert la continuelle fuite en avant industrielle, quoi. Et c'est en ça que leur rôle, il est important de comprendre ça, quoi. Qui sont les verts aujourd'hui, c'est ceux qui accompagnent le renouveau urbain et industriel de l'île métropole et probablement de toutes les autres villes de France, quoi. Voilà.
Et face à ça, à Lille, est-ce qu'il y a des formes d'opposition à ces transformations? Bon, y a ton livre, il y a le journal La Brique auquel tu participes. Comment ça se passe, la critique de ces positions et de ces transformations?
Donc depuis 2009, par rapport par exemple au RFID typiquement, donc on sait depuis 2009 que ça va se faire. Il y a eu plusieurs petits regroupements à partir des enquêtes qui ont été faites dans la brique, etc. Et puis d'autres gens. Il y a eu quelques actions, notamment de perturbation du débat public sur les nanotechnologies à Lille, organisée par la Commission nationale du débat public. Ça, c'était vers 2009-2010.
Oui, c'était fin 2009, début 2010.
Ouais, voilà. Donc à Lille, le débat, c'était les RFID. Il y avait deux débats, c'était les RFID et le textile. On était vraiment dans le téléguidage
industriel,
patronal, enfin, c'était vraiment grossier, quoi. Du coup, on s'est retrouvé là-bas, 70-80, on a perturbé le truc, on a bien rigolé. Et puis ça, on l'a renouvelé plusieurs fois. On est allé jusqu'à faire la même chose dans un conseil communautaire qu'on a suspendu pendant 10 minutes, un quart d'heure avant que les flics arrivent.
Le conseil communautaire, c'est la communauté urbaine de Lille, ça.
Voilà, c'est ça. Ouais. C'est comme le conseil municipal, enfin, c'est là où se retrouvent tous les élus communautaires. Donc on est allé un peu foutre le bordel, mettre des banderoles, etc. Avec Martine Aubry qui nous demandait de respecter l'exercice de la démocratie, qui nous a dit qu'elle voulait bien nous recevoir, elle nous a envoyé son émissaire, qui nous a proposé un rendez-vous qu'on a refusé, bien évidemment, parce qu'on veut bien discuter, mais à partir du moment où les projets s'arrêtent, quoi. Donc on lui a dit que c'était trop tard et que notre seule action politique, ça serait de leur nuire, quoi. Enfin, on veut pas leur proposer des aménagements tels que la Ligue des droits de l'homme, par exemple, peut le faire à Lille ou la CNIL ou des gens comme ça, quoi. Enfin, donc, y a eu un mouvement quand même d'opposition radicale, quoi, de principe, sans discussion. On est allé aussi à Lille 1, par exemple, une fois. Perturber une discussion qui se faisait sur les RFID avec des étudiants, des chercheurs, qui étaient financés par Decathlon ou Auchan, je ne sais plus. Enfin voilà, il y a eu des choses comme ça, des tractages sur les marchés, enfin tout ce qui est possible de faire. Là prochainement, on va aller dans les trains, parce que du coup, les voyageurs commencent à être équipés de cette carte, et il y a quand même un refus de ce truc, parce qu'en plus de ça, c'est complètement absurde. Les gens sont obligés de biper même s'ils sont abonnés. S'ils le font pas, ils prennent une amende de 5 €. Donc il leur faut leurs statistiques, quoi. Et s'ils les ont pas, ils sont prêts à mettre 5 € d'amende aux gens, quoi. Et donc il y a quand même une espèce de ras-le-bol chez les gens. Et du coup, nous, on va aller essayer de profiter de ça ou pousser un peu ça pour leur dire que cette absurdité-là est appelée à se développer à toutes les autres activités.
Il y a un mouvement qui est lié aussi à la gratuité des transports publics.
Oui, du coup, on était un peu en lien avec la Mutuelle des Fraudeurs, qui pousse un peu vers la gratuité, quoi, et qui est capable de remettre en question l'utilité sociale des transports aussi. Mais bon, comme de fait, il y a des gens qui sont obligés de prendre les transports, il y a aussi tant de discours sur la gratuité des transports pour aller au boulot, pour aller à l'université. Et voilà. Mais après, la gratuité, c'est vraiment un truc qui est plus tenu par, on dirait, des mouvements de gauche traditionnels, comme le Parti communiste ou les syndicats étudiants, des choses comme ça, enfin, avec lesquels on peut se retrouver quand même. Hein, enfin.
Et tu parlais aussi pour le mois de septembre d'un week-end d'information sur l'aménagement du territoire.
Ouais, alors du coup, sur cette zone de l'Union à Roubaix, qui a été. Ce serait bien qu'on ait des photos parce qu'elle était vraiment complètement rasée, quoi. C'était vraiment. C'était verdun, quoi. On est parti d'un truc avec plein de petites rues populaires, avec de la vie, avec des gamins et tout, à un truc, un paysage lunaire. Et de cette table rase va sortir des bâtiments HQE, quoi. Et donc, il va s'organiser. À l'initiative de la Maison de la Nature et de l'Environnement, de l'Université Populaire Citoyenne, des gens que je cite et que j'égratigne un petit peu dans le bouquin, avec le concours de l'Île Métropole et de la Société d'économie mixte Ville Renouvelée, donc vraiment les nuisibles, quoi, les gens qui ont participé à l'expulsion des gens, un forum social et écologique, voilà. Donc on trouve ça un petit peu indécent de faire ça autour de d'industries qui vont utiliser les nanotechnologies et qui vont produire de faux besoins une nouvelle fois. On trouve ça un peu indécent d'organiser un forum social et écologique là-dessus. Donc on compte bien pas laisser passer ce truc-là et profiter de cette fenêtre-là pour tenir 2-3 jours, 4 jours, on verra bien, de discussions, de projections, de débats contre l'urbanisme. Contre l'urbanisme et l'aménagement du territoire en tant que activité de spécialiste, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont spécialistes de la vie des gens, en gros, qui rationalisent le territoire pour qu'on vive bien dedans, etc. Et on voudrait une sorte de festival de pure négativité, quoi, sans proposition concrète, sans rien. Mais vraiment de critique de cette spécialisation qui est l'urbanisme, l'architecture et l'aménagement du territoire et leur soumission aux impératifs de l'économie. Voilà. Et donc on invite tous les gens qui ont des bonnes idées à nous contacter. Voilà. On aimerait bien que ce soit que ça sorte un peu, que ça ait une résonance qui sorte un peu de Roubaix, de la métropole, de la région. Voilà.
Oui, parce que c'est bon, comme on l'a dit tout à l'heure, ça concerne la plupart des grandes villes de France, avec toujours une dynamique d'hyper-spécialisation des activités en fonction des territoires.
Ouais, ça serait super qu'il y ait des gens de Paris qui viennent parler du Grand Paris, ça serait super qu'il y ait des gens de Grenoble qui viennent nous parler de... Je sais plus, il y a un écoquartier aussi qui se monte là-bas, je crois à Dijon il y a un gros écoquartier, à Nantes c'est une tente mise à fond sur la culture et l'écologie pour faire accepter la pacification du centre-ville. Enfin, ça serait bien qu'il y ait plein de gens un peu de France qui viennent raconter, un peu comme ce qui s'est fait dans ce bouquin L'Enfer Vert ou dans ce qu'on fait dans la brique, qui viennent dire bah nous, il y a tel projet qui se met en place, nous, il y a tel truc, avec la ligne, la LGV, avec tel écoquartier, telle construction de métro. Enfin, ça serait vraiment super qu'on puisse se retrouver, par exemple, à ce moment-là, pour chacun discuter de ça. Et voir quels sont nos moyens de défense, quoi.
Alors, pour terminer, puisque tu parlais de vous contacter, comment vous contacter, comment trouver des informations complémentaires. Bon, je rappelle déjà le livre, donc L'Enfer Vert de Tom Jo, un projet pavé de bonnes intentions. C'est aux éditions Badaboum, je crois que ça coûte 5 euros. Le journal La Brique, journal d'enquête sur Lille, qui est une parution trimestrielle à peu près.
Bimestrielle.
Et sinon, comment vous contacter?
Alors, il y a, on peut nous envoyer du courrier au 14 rue des Tours à Lille, à destination de La Brique, des éditions Badaboum. Sinon, par mail, l'adresse c'est journal.labrique@gmail.com. Voilà. Et on sera ravis de recevoir des propositions pour ce truc-là de septembre.
Et sinon, sur la question des RFID, il y a aussi un autre site ou blog, orsol.herbefolle.org, qui retrace un petit peu des actions contre les RFID.
Voilà, c'est un site qui produit de l'information, de la critique. Et qui recense un peu toutes les actions qui ont pu se faire contre les RFID dans le Nord, mais aussi un peu ailleurs. Voilà, et puis plus largement du monde des RFID, de ce monde qu'on veut rationaliser en permanence, parce que c'est vraiment ça le projet des RFID, c'est la possibilité aujourd'hui de tout connaître et de tout rationaliser pour un monde toujours mieux foutu et toujours plus totalitaire. Enfin,
voilà. Écoute, je te remercie.
Et ben c'est moi.
viennent nous expulser, nous, on revient.
À Notre-Dame-des-Landes, dans un bocage à 30 km de Nantes, la mairie et le conseil général du Parti Socialiste veulent construire un aéroport.
Mais depuis 40 ans, la population résiste à ce projet.
Et depuis plus de 2 ans maintenant, des gens s'installent illégalement sur les terres réservées au projet d'aéroport.
Dans un monde qui nous pousse à aller toujours plus vite, entre des espaces de plus en plus uniformisés. Dans un monde qui voudrait maîtriser tant les espaces que ce qui s'y passe. Dans un monde qui voudrait faire de nous des individus prévisibles et rentables.
Alors que d'un côté, on déplore la crise et le manque d'argent, de l'autre, on se lamente sur le surplus d'émissions de CO2 et la destruction de la planète.
Ce serait à chacune d'être responsable et de se serrer la ceinture.
Mais les projets démentiels, eux, sont plus que jamais d'actualité.
Réacteur EPR.
Ligne à grande vitesse.
Aéroport.
Gaz de schiste.
Et urbanisme galopant.
Rencontre de plus en plus de résistance.
Mais politiques et entrepreneurs sont têtus. À Notre-Dame-des-Landes, s'ils viennent nous expulser, nous reviendrons.
Le quatrième samedi suivant les expulsions.
Contre l'aéroport et le monde qui va avec.
Grande manif de réoccupation. Pour plus d'infos sur la lutte ainsi que les dates et lieux des manifestations, rendez-vous sur le site zad.nadir.org. zad.nadir.org.
Geen tobben, geen falen, geen twijfel, geen balen, geen gassen, geen lekken, geen kooien, geen hekken, geen crisis, geen lening, geen dagen, verveling, geen ruzie, geen sneren, geen slangen.
L'émission Les Amis d'Orwell se termine. Vous pourrez retrouver plus d'informations sur le site de Sourier, vous êtes filmé, http://sourier.info, Sourier, S-O-U-R-I-E-Z.
Met wensen, een bootje met mensen, een vogel die zingt, je liefje bemint. Je hele familie, tezamen, Cecilie, je zoontje, je dochter en niemand gesjochter, geen sores. Een klusje, een uitje, een blaadje, een buitje, een vlinder, een bloesem, een glaasje met droezem. Een lijster, een meisje, gezellig, een feestje, een huisje, een boompje en ook nog een beestje, geen sores. Bekropen, gedraaide praktijken die altijd maar lijken op dromen, verhalen waar wij in verdwalen. De hoofden opbreken, gezichten verbleken. Niet dolen, niet mokken, niet sippen, niet jokken, niet pesten, niet slaan, niet lullen, maar gaan. Met liefde, met leven, met nemen en geven. Met krachten en hopen, met kansen zijn open. Geen zorgen!